pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si l'alerte est donnée, vous devez garder tout votre calme, évacuer la salle avec ordre et discipline et gagner les abris par groupe sous la conduite du personnel de l'établissement désigné à cet effet. Vous devez avoir gagné les abris 3 minutes après le signal d'alerte.
Les Arabes sont arrivés à Poitiers en 732, mais c'est une majorité d'Arabes qui ont libéré la France en 1945. Ils ont d'abord été en majorité à Monte Cassino, campagne d'Italie. Ces gens-là, des Noirs, des Maghrébins, avaient l'amour de la France. J'ai retrouvé des amis FTP. Comme j'avais une petite expérience, ils m'ont demandé de constituer un groupe FTP dans la région de Saint-Aignan. Alors je l'ai fait, puis le groupe a grossi, il est devenu une compagnie à la Libération. On a fait pas mal de choses, on a fait des attentats, des sabotages, des embuscades. Voilà.
Salut tout le monde et bienvenue à vous dans le deuxième épisode de notre série avec Pat, Pierre, Alban, Thomas, un jeune instituteur qui devient soldat en 1943 en entrant en résistance aux côtés des francs-tireurs partisans, les FTP. Une aventure qui l'oriente vers une vie de guerre, Allemagne, Indochine, Algérie. Comme vous allez le voir au fil de cette série, c'est l'histoire d'un ancien maquisard qui a d'abord été un combattant de la liberté avant de devenir lui-même un occupant. Aujourd'hui, Pat va vous faire vivre des événements survenus au cours du fol été 1944, la libération de la France pendant laquelle il s'est passé beaucoup de choses étranges et pas toujours glorieuses, notamment dû à certains résistants de la dernière heure, comme on disait à l'époque. Pierre Alban, bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Au moment de cet enregistrement, à l'été 2013, vous êtes un monsieur de 91 ans, mais qui évoque ici la vie du jeune homme de 22 ans qu'il était en 1944. 22 ans, un gamin, quoi.
Bon, vis-à-vis de vous aujourd'hui, oui. Mais moi, à ce moment-là, évidemment, j'avais un peu conscience de ce que nous vivions, qui était une période historique, qui était importante, et ça nous rendait un peu plus mûrs. Les personnes qui avaient dépassé 30 ans, pour nous, c'était des vieux, et on était surtout entre jeunes. Mais on avait quelques personnes plus âgées, qui avaient dépassé la trentaine, qui nous servaient de support et de conseil. Et ces gens-là nous ont été précieux, parce qu'ils nous ont peut-être empêchés de faire des bêtises.
En 1943, à 21 ans, Pat rejoint le maquis alors que Vichy et les nazis promettent pourtant un avenir radieux à la jeunesse française.
Je hais les mensonges qui nous ont fait tant de mal, a dit notre maréchal. Ceux qui ont corrompu notre peuple, ceux qui propagent aujourd'hui encore le mensonge, ce sont toujours les mêmes, les juifs. Au détriment de la jeunesse française, cette race étrangère avait accaparé toutes les places importantes, toutes celles dont dépendait l'activité du pays. Ces places sont libres, elles reviendront à la jeunesse française. Désormais, le but de l'existence ne sera plus de jouir égoïstement en obéissant qu'à une seule loi, celle du moindre effort. Consciente de sa responsabilité envers la communauté nationale, la jeunesse, notre jeunesse, va créer les conditions d'une vie nouvelle. Elle va forger une civilisation nouvelle, aux larges horizons, débarrassée de tous les éléments destructeurs et asociaux.
Il la force ! Il le maréchal ! Il le maréchal !
L'esprit de jouissance a emporté sur l'esprit de sacrifice. On a revendiqué plus qu'on a servi. On a voulu épargner l'effort. On rencontre aujourd'hui le malheur.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois.
Au musée Galliérin, M. Lamiran vient inaugurer l'exposition des dessins envoyés au maréchal Pétain par les écoliers de France. Tous les petits ont voulu répondre à l'appel qui leur avait été adressé. Tous ont voulu montrer au maréchal leur ville, leur village, leur maison, et lui raconter ainsi par une image leur vie de tous les jours. Par grâce spéciale, une écolière de France, peut-être la plus jeune, a été admise à porter elle-même au maréchal sa lettre patiemment, tendrement composée.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
On aime son pays parce qu'on aime son village.
Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur.
Je souhaite la victoire de l'Allemagne.
Oui, je t'aime. Et je te donne ce poème.
Parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout.
Oui, je t'aime. Dans la joie ou la douleur.
Français, vous avez vraiment la mémoire courte.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
Vous n'êtes ni vendu, ni trahi, ni abandonné. Ceux qui vous le disent vous mangent et vous jettent dans les bras du communisme. Vous souffrez et vous souffrirez longtemps encore, car nous n'avons pas fini de payer toutes nos fautes. Il me faut votre foi, la foi de votre cœur, la foi de votre raison. Il me faut votre sagesse et votre patience. Vous ne les acquerrez que dans la discipline que je vous impose.
Oui, je t'aime. Et je te donne ce poème. Oui, je t'aime. Dans la joie ou la douleur.
Rappelez-vous surtout que vous êtes des hommes. Des hommes d'une vieille et glorieuse nation.
Douce France. Cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
Ressaisissez-vous, venez à moi avec confiance.
Je t'ai gardé dans mon cœur.
Français. Quiconque parmi vous, fonctionnaires, militaires ou simples citoyens, participe au groupe de résistance, compromet l'avenir du pays. Il est dans votre intérêt de garder une attitude correcte et loyale envers les troupes d'occupation. Ne commettez pas d'actes susceptibles d'attirer sur vous et sur la population de terribles représailles. Vous précipitez la patrie dans les pires malheurs.
Vous êtes avec Pat Pierre-Alban Thomas qui, en 44, dirige un maquis FTP en Loire-et-Cher. C'est l'été de la libération du territoire. Les Alliés ont enfin envoyé des armes au maquis pour désorganiser la retraite allemande. Mais à part ses activités purement militaires de 44, pendant toute la guerre, l'essentiel du travail de la résistance, qui n'a pas d'armes donc, consistera à faire passer des frontières à des clandestins, faire du renseignement, de la propagande, des activités secrètes qui requièrent discrétion et confiance.
On avait quelquefois des doutes sur certains, hein, oui. On espérait qu'il n'y ait pas de mouchards, comme il y en avait déjà eu dans notre premier groupe, dans le groupe France Liberté. Il y en avait un qui s'était introduit comme ça, et en qui tout le monde avait confiance, et qui était un mouchard, qui travaillait donc pour la Gestapo. Quelquefois, on se disait, est-ce qu'on n'en a pas, nous aussi? On nous a amené deux suspects, une fois, quand on était dans le maquis. Et on nous a dit, voilà, c'est des types qui ont collaboré. Alors, il y en avait qui voulaient qu'on les tue, évidemment, forcément. Ça. Puis d'autres qui nous disaient, il faut les garder en prison. Ben, nous, les garder en prison, et on n'était pas des gardes-chiourmes, hein, comment faire? Alors, on les avait mis dans une, ce qu'on appelle des toits à cochons, complètement bouclés. Puis il y en avait un, très mince, il avait réussi à s'évader. Puis l'autre, qui était grand, costaud, il n'avait pas pu, lui, il était resté là. Et j'avais donné des ordres pour qu'on le surveille de près, qu'il n'aille pas se sauver, puis aller nous dénoncer. puis, ma foi, il y a une sentinelle qui a trop bien interprété la chose. Et puis, dans la nuit, il a voulu aller faire pipi dehors. Et puis, paf, il a été dégommé. Il n'aurait pas fallu qu'on nous envoie ce gars-là, quoi. Oui, il avait collaboré, il avait donné du ravitaillement aux Allemands, il recevait des Allemands chez lui, il faisait la fête avec eux, tout ça. Mais apparemment, il n'avait dénoncé personne. Apparemment, on n'en sait rien. Mais enfin, étant bien avec les Allemands, on pouvait en douter, c'est pour ça qu'il nous avait été envoyé. Bon, il est mort. Bon. Le jour de la libération de Saint-Aignan, on croyait que les Allemands étaient partis complètement, alors on avait occupé le château de Saint-Aignan. Et on était sur la terrasse, puis tout d'un coup, on a vu des fumées, on a entendu des crépitements, des bruits de mitraillage de l'autre côté du pont, sur Noyer. Alors aussitôt, le comte de La Rochemont est venu nous dire « Sauvez-vous vite, sauvez-vous, rejoignez la forêt, parce que les Allemands sont à Noyer, ils vont certainement venir ici. » Et s'il vous voit au château, le château va être incendié, vous allez être tué, etc. Alors nous, bon, on est parti, hein, on a rejoint notre ancien bivouac dans la forêt. Les Allemands sont venus jusqu'au pont, puis ils sont partis, ils ne sont pas entrés dans Saint-Aignan, ils ont fait demi-tour. Mais ils ont quand même tué plusieurs personnes à Noyer. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déployé des drapeaux pour fêter la libération, prématurément. Les gens qui se trouvaient à proximité, ils se sont fait dézinguer. On a attendu alors patiemment d'être absolument certain que les Allemands aient quitté les lieux. Lorsque 48 heures après, on était sûr qu'ils n'étaient plus là, on est entré dans Saint-Aignan. Alors là, ça a été la fête de la libération, ça a été les bals publics, bals de la résistance, etc., etc. Mais toujours en pensant à nos copains qui avaient laissé leur vie. Hein. Quelques jours après, à Orbigny, on est tombé dans une embuscade. Les Allemands étaient devant nous alors qu'on croyait que c'était des amis. C'était un groupe d'Allemands, puis ils nous ont rafalés à bout portant.
Philippe Pétain, de son balcon, regardait la honteuse rangée de Fauchetons, la brochette de sacrés cochons, de Paul Marion à de Brinon, d'Arnan, d'Oriot, Laval, Henriot. D'un air éteint, il s'écria soudain: Y a-t-il des salauds parmi nous? Tous!
Pierre Dac.
Prenne tes pieds par terre. La Francisque à la main, c'est la fin. Il n'en restera guère de tous ces fils de pétain.
Radio Londres. Au cours de l'été 44 de la libération de la France, entre apparition et crime de résistants de la dernière heure, ou les manœuvres de certains collabos, il va se passer des choses douteuses et violentes dont Pierre-Alban Thomas va être témoin, voire même acteur.
Certains petits industriels essayaient de s'en tirer d'une façon ou d'une autre. Ils se faisaient donner des certificats de résistance alors qu'ils avaient collaboré. Et ça, c'était assez courant. D'autres essayaient de se faire donner des dédommagements. Il y avait une marchande de vin de Thésée. Elle prétendait que nous lui avions extorqué de l'argent. Effectivement, moi, je lui avais demandé une somme assez importante quand même pour nourrir mon maquis, parce que je savais qu'elle avait des sous, hein, beaucoup, à la faveur du marché noir qu'elle a pu faire et puis surtout du trafic qu'elle a fait avec les Allemands, parce qu'elle livrait des foules entières de vin aux Allemands. Alors donc, je lui ai demandé de l'argent. Alors bien sûr, comme ceux que j'avais envoyés pour chercher l'argent, ils étaient armés, elle a bien été obligée de s'exécuter. Quelque temps après, elle a fait une réclamation auprès des autorités françaises en demandant la restitution de cet argent-là. J'étais avisé de sa démarche. Je lui ai répondu que je considérais, puisqu'elle n'avait pas, elle, risqué sa vie comme d'autres pour la libération, que c'était sa manière à elle de s'acquitter d'une dette qu'elle devait envers la France. J'ai fait cette réponse-là que j'ai envoyée aux autorités militaires. Je suis parti en Indochine, moi, après, je n'ai pas su ce que c'était devenu. «
aussi des femmes qui ont pratiqué ce que le peuple appelait la collaboration horizontale.
À Noyers-sur-Cher, on allait faire une patrouille. Et puis tout d'un coup, on a vu des gars qui avaient des fusils sur le... qui avaient des brassards FFI, tout ça. Et ils étaient en train de tondre deux malheureuses filles. Alors moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Ils m'ont dit, c'est les collaboratrices, elles ont renseigné les Allemands. Je dis, vous en avez la preuve? Je lui ai dit, oui, on a les preuves formelles, il faut les tondre. Et moi, j'avoue que j'ai manqué de courage, étant donné que j'étais quand même le responsable local. J'aurais dû les... Mais j'avais tellement d'assurance à leur demander leur référence que j'ai rien dit. Mais ça, je m'en suis toujours voulu. J'ai dit, j'aurais dû les engueuler et puis leur dire qu'ils n'avaient pas à faire ça, que ce n'était pas à eux de faire ça. Puis j'avais aussi un peu mauvaise conscience parce que nous, de notre côté, on avait liquidé une femme collaboratrice. Alors donc, ils auraient pu me répondre s'ils l'avaient su. Que eux, ils ne faisaient que tendre des filles, mais que nous, on en avait descendu une. Tout ça aidant, j'ai rien dit. Voilà, un exemple, mais j'en avais jamais entendu parler de ces types-là. Ils apparaissaient là. Comment? Où ils avaient pris les armes? Je ne sais pas. Où ils avaient pris les brassards? Je ne sais pas. De qui ils dépendaient? Je ne sais pas.
Voici des femmes qui ont pratiqué ce que le peuple appelait la collaboration horizontale.
La belle qui couchait avec le roi de Prusse, avec le roi de Prusse, à qui l'on a tondu le crâne rasibus, le crâne rasibus. Son penchant prononcé pour les ichlibediches, pour les ichlibediches, lui valut de porter quelques cheveux postiches, quelques cheveux. Postiche, les braves sans culotte et les bonnets phrygiens et les bonnets phrygiens ont livré sa crinière à un tondeur de chien, un tondeur de chien. J'aurais dû prendre un peu parti pour sa toison, parti pour sa toison. J'aurais dû dire un mot pour sauver son chignon, pour sauver son chignon. Mais je n'ai pas bougé du fond de ma torpeur, du fond de ma torpeur. Les coupeurs de cheveux en quatre m'ont fait peur, en quatre m'ont fait peur. Quand pire qu'une brosse, elle eût été tondue, elle eût été... J'ai dit c'est malheureux, ces accroche-cœurs perdus, ces accroche-cœurs perdus. Et ramassant l'un d'eux qui traînait dans l'ornière, qui traînait dans l'ornière, je l'ai comme une fleur mise à ma boutonnière, mise à ma boutonnière. En me voyant partir, arborant mon toupet, arborant mon toupet, tous ces coupeurs de nattes m'ont pris pour un suspect, m'ont pris pour un suspect. Comme de la patrie, je ne mérite guère, je ne mérite guère. J'ai pas la croix d'honneur, j'ai pas la croix de guerre, j'ai pas la croix de guerre. Et je n'en souffre pas avec trop de rigueur, avec trop de rigueur. J'ai ma rosette à moi, c'est un accroche-cœur, c'est un accroche-cœur.
Hommage de Brassens à ces courageux résistants de la dernière heure qui s'achètent une conduite en tondant des femmes. Ces sauvageries, Pat en voit en cet été 44. Il en a même commis. Pendant que les gros collabos échappent à leur châtiment, des simulacres de justice essaiment donc partout sur le territoire fraîchement libéré. Pat, chef de maquis, participe lui au procès d'une jeune femme de Saint-Aignan condamnée à mort par un tribunal populaire. D'aucuns diraient qu'il a été complice d'un assassinat.
Aujourd'hui, je regrette de l'avoir fait. Je ne peux pas dire que j'en ai des remords, mais j'en ai des regrets amers. Je pense que cette fille était beaucoup moins coupable que bien des gens qui avaient pignon sur rue et qui depuis s'en sont tirés les choses de net, hein, qui n'ont pas eu de gros ennuis. Alors qu'elle, bah, elle a perdu la vie à 22 ans, hein, c'est moche. Bien sûr, elle a commis une faute, mais à ce moment-là, on était convaincus que c'était une salope et qu'elle devait disparaître. C'était l'état d'esprit qu'on avait, voilà. Et c'était une fille qui avait dénoncé des Juifs, on en avait la preuve, et nous avions décidé d'un commun accord, il n'y avait pas eu de restriction, qu'elle devait mourir. On avait un peu peut-être vis-à-vis de la mort une approche beaucoup plus simple qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est-à-dire que la mort, bon, bah, on n'en faisait pas trop cas. Hein. Alors qu'aujourd'hui, malgré tout, on se dit, bah oui, c'est toute une vie qu'on lui a retirée à cette fille. Hein. Voilà, alors ça... Et puis alors, il y a une chose depuis que, à laquelle j'ai repensé, c'est qu'elle nous avait dit ça incidemment, mais depuis, ça m'a tourné dans la tête. C'est qu'elle nous avait dit que elle exécutait les ordres de Pétain qui avaient dit que les Juifs étaient coupables et qu'il fallait s'en débarrasser. Nous, à l'époque, on avait pris ça comme vraiment une atteinte à la personne humaine de sa part. Alors que, en réfléchissant bien, je ne crois pas, je crois qu'elle était sincère en disant ça. C'est un regret, remords, appelez ça comme vous voudrez, que je peux avoir concernant cette décision. Et puis on avait parmi nous quand même un inspecteur de police qui faisait partie de notre petit tribunal du peuple, qui nous en imposait un peu et était tout à fait d'avis de la faire disparaître.
Finalement, c'est le petit ami de l'époque de cette femme qui va se charger de l'exécution.
Oui, c'est ça, oui. On voulait tirer à la courte paille pour savoir celui qui aurait cette lourde charge. Et lui, il nous a tiré une aiguille du pied, hein, puisqu'il a dit « moi, je suis volontaire ». Alors, on n'en revenait pas. Ben, on a sauté sur l'occasion, on lui a dit « ben voilà, pistolet, vas-y ».
Avant de juger cette étrange affaire avec vos yeux d'aujourd'hui, n'oubliez pas de voir ces événements avec un regard de 1944. Retour à la résistance sous l'occupation. Pour schématiser cette histoire complexe, disons qu'il y avait deux principaux mouvements, les FTP, francs-tireurs partisans, plutôt communistes, dont se méfiaient les alliés, et l'armée secrète, plutôt pour un retour à la France conservatrice d'avant-guerre, et que les alliés considéraient un peu mieux.
Il y avait une tension entre les deux mouvements, mais déjà dans les Pyrénées, c'était déjà très manifeste. À côté de notre groupe de 17, il y avait un groupe d'une cinquantaine de jeunes de l'armée secrète. Ils avaient construit des baraquements et lorsque les GMR ont envahi la zone, des GMR, c'était les gendarmes mobiles. Ils obéissaient tous aux ordres du maréchal Pétain, hein, et de ses sbires. Déjà à ce moment-là, il y avait une tension entre les deux mouvements puisque le dépôt d'armes de Naï que nous étions allés chercher, les gendarmes nous ont dit qu'ils les avaient donnés à l'armée secrète. Et on a eu après ça des échos disant que c'était vrai et ils n'avaient pas voulu nous les donner à nous parce qu'un de nos amis qui se prénommait Arthur, hein, lui était allé trouver les gendarmes déjà en demandant qu'on lui remette les armes pour la résistance. Mais les gendarmes avaient été très réticents et ils les avaient donnés à l'armée secrète. Et nous, quand on y est allé pour les prendre, ben, ils n'y étaient plus.
Il est absolument normal et il est absolument justifié que les Allemands soient tués par les Français.
De Gaulle.
Si les Allemands ne voulaient pas recevoir la mort de nos mains,
1941.
Ils n'avaient qu'à rester chez eux et ne pas nous faire la guerre. Mais il y a une tactique à la guerre. Or, actuellement, la consigne que je donne pour le territoire occupé, c'est de ne pas y tuer d'Allemands. C'est qu'il est en ce moment trop facile à l'ennemi de riposter par le massacre de nos combattants et de nos combattantes momentanément désarmés.
Comment vous, au cours de l'occupation, vous voyez le personnage du général de Gaulle ?
En 1940, c'était le sauveur. Hein. Tout le monde, tout autour de nous, se pliait devant Pétain. Il y en avait qui s'agenouillaient littéralement devant lui, les fans de la droite, de la bonne droite bien pensante et de l'extrême droite. Et puis il y en avait d'autres, les gens lambda, qui eux acceptaient la défaite en disant peut-être que Pétain c'est un moindre mal et qu'il faut y passer pour que l'essentiel soit préservé. Et il va essayer de louvoyer auprès des Allemands pour sauver ce qui pourra l'être de la France.
Et vous, au cours de la guerre, est-ce que votre vision de Gaulle évolue ?
Oui. Sous l'effet de la propagande du Parti communiste, qui ne le voyait plus comme le sauveur, mais comme un futur opposant. Il était déjà aussi bien du côté gaulliste que du côté communiste, en prévision qu'il y ait affrontement entre les deux tendances après la guerre. L'une voulant restaurer une forme de démocratie bourgeoise, bien pensante, dans laquelle les principaux dirigeants économiques, financiers et autres tireraient parti, et puis l'autre qui était révolutionnaire, dirigé par le Parti communiste, qui voulait changer tout cela, faire table rase de l'ancien régime et instaurer un régime nouveau qui, on ne pouvait pas le savoir à l'époque, mais qui, à nos yeux, serait le prélude à la République universelle. Mais par la suite, nous avons compris que si la France était tombée dans cet excès-là, on aurait eu une démocratie populaire à l'identique de la Tchécoslovaquie, de la Roumanie et autres. Alors ça, on ne le voyait pas du tout, nous, communistes et FTP à l'époque. Ça, on ne se doutait pas de ça, mais c'est quelque chose qui aurait pu se produire.
Français, je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout.
Est-ce que les FTP sont majoritaires dans la résistance ? Est-ce que le gros de la résistance est composé de gens de gauche ?
Il y en a une bonne partie. On ne peut pas dire que ce soit la majorité. La majorité était plutôt neutre, c'est-à-dire ne sachant pas s'il fallait opter pour le gaullisme ou pour le communisme, restant entre les deux, avec surtout le désir de chasser les Allemands de France sans penser trop à l'avenir politique. Mais la partie active des FTP était favorable à un changement complet de régime et la partie active du gaullisme favorable à une restauration d'une démocratie bourgeoise. À peu près, en disant que un quart était partisan de la restauration comme avant sous l'égide de De Gaulle, un quart favorable à l'instauration d'une démocratie populaire à l'instar du Parti communiste, et puis une moitié hésitant entre les deux. Il faudrait demander à des historiens pour établir un pourcentage peut-être plus juste.
Ici, Londres. Voici notre 9e bulletin d'information.
Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. La fortune vient en dormant. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage. De Marie-Thérèse à Marie-Louise. Un ami viendra ce soir.
D'abord, une première chose, c'est que les parachutages d'armes étaient réservés aux non-FTP, c'est-à-dire aux maquis de l'armée secrète, enfin aux maquis ou aux résistants de l'armée secrète, de Libération Nord, qui était socialiste, mais qui recevait des armes parce que c'était quand même, ils faisaient partie de l'establishment, ils n'étaient pas pour le chamboulement révolutionnaire. Il y a donc ces deux parties-là qui avaient une vision du monde différente de la nôtre. Les FTP, eux, comme je vous ai dit, voulaient chambouler et ils faisaient peur à beaucoup de gens. Donc en France, on ne peut pas dire qu'il y avait un engouement pour le... On ne disait pas d'ailleurs tellement les FTP, on disait le Front National plutôt, parce que les FTP, c'était la partie active du Front National qui, lui, était moins marqué par le Parti communiste. Comme le nom l'indique, c'était un front qui ressemblait au Front populaire, mais formé de toutes les couches politiques et sociales de la nation.
On précise au passage que le mouvement de résistance Front National n'a aucun rapport avec l'actuel Front National fondé par Jean-Marie Le Pen, qui a d'ailleurs volé le nom. Jean-Marie Le Pen et son parti ont été poursuivis en justice pour avoir usurpé ce nom de résistance.
C'est absolument exact.
Nous disons, je n'aime pas les crêpes Suzette. On joue le Cid à l'opéra.
Nous avons eu des exemples flagrants de parachutages qui nous ont été accordés uniquement en trichant, en déclarant qu'ils étaient pour l'armée secrète.
Ça, c'est avec la complicité de Pauline ?
Non, Pauline, c'est différent. Non, ça, c'était avec de Vaumécourt et avec des dirigeants de l'armée secrète qui se sont retrouvés après ça à organiser le maquis de Souhem. Pauline, c'était une Anglaise associée à la direction des maquis du Nord-Inde, de Vallée du Cher, et qui avait une conception très neutre de la résistance. Elle a accepté qu'il y ait deux maquis FTP, parce que ça lui faisait du nombre. Elle était heureuse comme tout d'avoir notre apport numérique. Mais qui nous avait bien dit et recommandé à tous, je vous ferai avoir des armes, mais j'exige une chose, c'est qu'il ne soit pas fait de politique du tout dans les groupes auxquels je suis associé. Je veux que ce soit neutre au plan politique. Voilà. On s'est engagé à le faire et on l'a fait d'ailleurs. On n'est pas des tricheurs. On a gardé pour nous nos idées et puis on a, entre nous, fait des projets sur l'avenir, mais on n'en a pas fait de propagande ouverte au sein de nos unités.
Et maintenant, un peu de vocabulaire de la libération avec le mot naftalinar. Qui sont donc ces militaires naftalinars qui apparaissent miraculeusement à la fin de la guerre ?
Ceux qu'on voit arriver, c'est ceux qui se sont planqués pendant l'occupation, qui ont été plus ou moins pétinistes d'ailleurs, pour beaucoup, et qui ont sorti de leur cantine de beaux uniformes qui sentaient la naftaline, qui les ont revêtus et qui se sont fait passer pour des résistants. Ils ont trouvé le moyen d'obtenir des certificats de résistance où il y en a qui, forts de leur galon dans l'armée française d'avant 1939, se sont présentés à nous en voulant nous diriger. C'est ça, les naftalinars. Ce n'est pas ceux qui venaient de Londres. Ceux qui venaient de Londres, au contraire, on les estimait beaucoup.
Et alors, comment vous réagissez vis-à-vis de ces naftalinars ?
Nous, on s'est engagés plus ou moins un peu partout. Moi, je suis allé dans une école de cadres. Tous mes camarades ont été envoyés, les uns sur le front de l'Orient, d'autres dans des unités combattantes en Alsace. Et bien, puis eux, ils ont trouvé une combine pour se réintégrer dans des unités en formation un peu partout, puisqu'il y avait des unités de résistants qui se formaient. Ils se sont groupés là-dedans. Alors, je vais vous donner une anecdote là. Un des bataillons, qui était un bataillon de l'armée secrète d'ailleurs, du colonel Perdrizet, auprès duquel il y avait Pauline, qui avait son PC au château de Châteauvieux, dans le sud du département de Loir-et-Cher. Ce commandant a reçu deux ou trois de ces naftalinars qui se sont mis à sa disposition en disant « Voilà, moi j'étais lieutenant dans l'armée d'active, moi j'étais capitaine de réserve, etc. Et je voudrais entrer dans votre formation avec un commandement approprié à mon grade. » Lui, il les a mis à la porte en disant « Si vous voulez, mais comme deuxième classe, commandé par des officiers qui ont fait leur preuve au combat. » Alors là, chapeau, c'est bien. Les types en question ont bien sûr pris la porte et sont partis comme des péteux.
J'ai bouffé du cannibale, j'ai même digéré des balles, il en faut pour que je m'emballe. J'ai discuté, car des bataillons d'Afrique, je porte la marque de fabrique, et voilà tout le portrait, d'un tatoué, d'un dur, d'un vrai.
Des durs et des tatoués gradés, à la Libération, Pat en a vu apparaître comme des champignons. En cette fin de guerre, le jeune officier Thomas, fils du peuple qui a gagné ses premiers galons dans la résistance, sympathisant communiste, rêvant de lendemain qui chante, décide de rester dans l'armée. Il a 22-23 ans.
Ceux qui avaient le même idéal que moi, donc communiste, je ne m'en cache pas, les choses s'étaient passées très différemment de ce qu'on avait pensé. De Gaulle ayant pris le pouvoir, il nous avait supplantés. Notre rêve de République universelle s'effondrait. On était donc frustrés de ce côté-là. Alors, déposer les armes, bien sûr, on savait bien que dans la vie civile, on ne pouvait pas rester armé. Donc, on savait très bien qu'il fallait déposer les armes. Mais on pensait qu'il était possible de constituer ce qu'on appelait des milices patriotiques, c'est-à-dire des civils qui auraient des armes à leur disposition, des formes de réservistes, comme il y en a eu après 1793. Ces gens-là pouvaient avoir un rôle militaire à jouer aux côtés de l'armée. Il n'en était pas question pour moi, puisque j'avais opté pour une école de cadre, donc entrer dans l'armée. Mais tous ceux qui restaient derrière et qui n'avaient pas fait acte de volontariat pour rester dans l'armée active, ceux-là étaient un petit peu orphelins de l'idée qu'ils pouvaient se faire de leur rôle après-guerre.
Je me suis laissé dire qu'à la Libération, toutes les armes des maquis n'ont pas forcément tout été rendues.
Oh, c'est absolument exact. Hein. Moi-même, j'en ai gardé des armes. J'ai rapporté d'Allemagne ma mitraillette. C'était un prototype. J'y tenais énormément. Et puis, j'avais rapporté aussi une mitraillette classique, la Sturmgewehr, je ne sais plus comment le nom exact. Quand je suis parti en Indochine, je les ai confiés à mon cousin, lui disant, voilà, tu en prends bien soin, parce que tous mes copains ont tous gardé les armes, moi je garde celle-là. Et puis mon diable de cousin, il les a enterrés, il a eu la trouille, puis on ne les a jamais retrouvés. Oui. Mais enfin, il y en a d'autres qui ont gardé les leurs, ça je l'ai su, hein, dont des fusils mitrailleurs et autres. Certains, les uns après les autres, les ont rendus à la gendarmerie, d'autres les ont mises au musée de la Résistance, peut-être d'autres encore en ont gardé, mais peu à peu ça s'étiole, hein, et il n'y en a presque plus de planqués maintenant.
Alors Pierre Alban, rassurez-nous, maintenant vous êtes en parfaite légalité avec la loi, vous n'avez pas un flingot planqué sous un matelas.
Non, c'est fini, j'ai plus rien. Non, j'ai donné ça au musée de la Résistance, ce qui me restait.
Avant de poursuivre avec Pierre-Alban Thomas ses souvenirs de la campagne d'Allemagne de 1945, une digression musicale pour le sujet suivant, les Zouaves et autres tirailleurs sénégalais. On va parler de ces milliers de soldats de l'armée coloniale française qui nous ont délivrés du joug des nazis pendant que la plupart des métropolitains étaient prisonniers en Allemagne. Comme l'écrit De Gaulle, l'armée d'Afrique fut l'épée de la France. Même si ça peut en agacer quelques-uns, en 1944, ce sont notamment les Bougnoules qui ont libéré les Gaulois. Alors, debout les Zouaves, chante Nadia Doty.
Fils de France, les fils d'outre-mer, sous l'esprit du drapeau qui flotte dans les airs, la vaillance, l'aide et nos combats, ils ne passeront pas, car les Zouaves sont là, les Zouaves sont là.
À la Libération toujours, la campagne d'Allemagne va commencer, donc là on est en 45. Il y a une phrase qui m'a frappé dans votre livre, l'armée française blanchit ses rangs.
Ah bah oui, l'armée française elle était faite en majorité de Noirs et de Nord-Africains qui avaient été mobilisés dans nos colonies et nos départements d'outre-mer. Donc la majorité de l'armée française, la première armée française en particulier, c'était ça. J'ai un ami qui s'appelait Sanguinetti, l'amiral Sanguinetti, qui faisait partie de la Fédération des officiers de réserve républicains, dont je faisais partie moi aussi, nous disait un jour, les Arabes sont arrivés à Poitiers en 732, mais c'est une majorité d'Arabes qui ont libéré la France en 1945. Ils ont d'abord été en majorité à Monte Cassino, campagne d'Italie, ces gens-là avaient l'amour de la France. C'était des Noirs, des Maghrébins. Et quand il a fallu continuer la guerre en 1945 pour participer à la campagne d'Allemagne, le haut commandement français a dit « ces gars-là en ont bavé beaucoup, on va les remplacer par des résistants français qui, eux, ne demandent qu'à combattre et qui vont soulager un peu les autres qui ont eu leur charge, un peu trop même. Et c'est ainsi que, progressivement, ils ont été renvoyés dans leur foyer et des petits maquisards, on les a remplacés dans les unités de la première armée française.
De Tunis ou de Rabat, de la brousse ou de Sousse, de la Corse ou de Paris, ce sont les gars du pays.
Vive France et vive Outre-mer, sous les plis du drapeau qui flotte dans les airs. La vaillance et les longs combats, ils ne passeront pas, car les soirées sont là.
Ces braves gars que l'on a renvoyés dans leur foyer après avoir combattu pour la France, ont eu des pensions de retraite qui étaient 7 fois inférieures à celles des Blancs. Et le 8 mai 1945, lorsque nous avons défilé victorieusement dans les rues de Paris et des villes françaises, eux ont voulu faire la même chose à Alger. Ils ont voulu défiler victorieusement aussi au sein des Français qui avaient combattu pour la libération de la France. Et ils ont réclamé la parité avec les combattants français en disant « Nous avons été au feu à l'égal de nos camarades blancs, il n'y a pas de raison que nous n'ayons pas les mêmes avantages matériels qu'eux. » C'était une de leurs revendications au cours de ces défilés. Et des indépendantistes se sont glissés dans leur rang à Alger, et puis dans d'autres villes, à Sétif en particulier, dans d'autres villes d'Afrique du Nord, et ont déployé le drapeau de l'indépendance algérienne.
Vert à étoile rouge.
Ils ont été tout de suite mis à l'index par la police française, qui a voulu s'emparer de leur drapeau. Certains étaient armés de ces gars-là, et puis la police française était armée aussi. Il y a eu échange de coups de feu, et il y a eu quelques tués part et d'autre. C'était le branle-bas de combat. Les Français ayant eu des tués se sont repliés, les Algériens ayant eu des tués aussi, mais les Algériens sont revenus en force, armés, et ont massacré 100 de pieds noirs. Alors là, ça a été le point de départ de la guerre d'Algérie, parce que le général Duval, qui commandait les troupes françaises, a reçu l'ordre du gouvernement français de faire des représailles. Ces représailles ont été extrêmement sanglantes parce qu'il les a faites au hasard sur toutes les populations d'où provenaient ceux qui s'étaient rebellés, mais sans distinction ni de formation, ni de sexe, ni d'âge des populations. Les Algériens, eux, disent qu'il y en aurait eu 30 000 et les historiens sérieux estime à 15 000, 18 000 le nombre de tués exacts.
Mais chez les Algériens.
Algériens, oui, tués.
Pour environ.
Je crois que c'est 108, il me semble, Français qui ont été tués.
Ces massacres de Sétif, vous ne les en prendrez que plus tard, en 1954, en allant en Algérie. Vous n'aviez pas eu vent de ce truc-là avant.
Ah non, personne ne l'a su, ça. Il y a sûrement des initiés qui l'ont su, mais c'était vraiment la minorité. Ils n'en ont pas fait état parce que c'était bouche cousue, hein.
Sétif, nous en reparlerons dans un prochain épisode, mais notez bien ce que Pat vous a dit, c'est en mai 1945 qu'a démarré la guerre d'Algérie.
Je suis tombé par terre, c'est pas la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, il n'y avait pas d'olto. S'il n'y a pas plus d'anges dans le ciel et sur la terre, pourquoi faut-il qu'on crève dans le ghetto? Plutôt que d'être issu d'un peuple qui a trop souffert, j'aime mieux élaborer une thèse. C'est à ces messieurs qui légifèrent le soin de me balancer des ancêtres. On a beau être né rive gauche de la Garonne, converser avec l'accent des cigales, ils sont pas des kilos dans la cité gasconne à faire qu'elle soit pas qu'une escale. On peut mourir au front et faire toutes les guerres, et beau défendre aussi joli drapeau, il en faut toujours plus, pourtant y'a un hommage à faire à se tomber à Monte Cassino. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du matin du cœur.
Comment voulez-vous que le travailleur français qui travaille avec sa femme et qui ensemble gagne environ 15 000 francs et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler? Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Et ce n'est pas être raciste que de dire cela. Nous Nous n'avons plus les moyens d'honorer le regroupement familial. Et il faut enfin ouvrir le grand débat qui s'impose dans notre pays, qui est un vrai débat moral, pour savoir si il est naturel que les étrangers puissent bénéficier, au même titre que les Français, d'une solidarité nationale à laquelle ils ne participent pas puisqu'ils ne paient pas d'impôts.
Le bruit et l'odeur de Jacques Chirac, repris par Zebda, qui nous rappelle ici que ce sont notamment les Arabes qui ont reconstruit la France après l'avoir libérée. Une histoire que nous rappelle aussi Pierre-Alban Thomas. En 1945, le jeune républicain de 23 ans reste dans l'armée française, convaincu, comme lui ont expliqué ses amis communistes, que l'armée doit aussi compter des officiers venus du peuple et plus seulement des gradés issus des grandes familles bourgeoises ou aristocrates.
D'aristocrate, ça, faut remonter à la guerre d'avant 39. Hein. Pas d'aristocrate, faut dire de gens bien pensants, dont des aristocrates.
Hein. Ou des bourgeois. Quoi.
Ou des bourgeois, hein, de la haute société. Alors que des gens issus du peuple, il y en a eu au cours des âges, hein, mais ce n'était pas la majorité. Or, la résistance nous a donné la possibilité d'avoir une autre armée, sans que ce soit l'armée du peuple, comme on pensait pouvoir la créer lorsque nous étions résistants, mais au moins avoir une grande partie de l'armée qui soit issue du peuple. Alors pour cela, eh bien, il était nécessaire que ceux qui avaient eu une responsabilité, un grade officier, sous-officier, dans l'armée de la libération, hein, ou dans les maquis, gardent cette distinction, ce grade, pour continuer à rester et avoir aussi des commandements conformes à ces grades. Donc on a essayé de rester dans l'armée le plus grand nombre possible. C'était des directives qui venaient en partie du Parti communiste, hein, qui ne se sont pas cachés pour nous le dire. Ne dégagez pas de l'armée, restez-y parce que l'armée du peuple a besoin de vous. Si vous allez en Indochine ou ailleurs, où il peut y avoir des troubles, suivez le mouvement, ne lâchez pas, ne quittez pas, parce que vous devez toujours être auprès de ceux qui combattent pour les conseiller puis leur dire ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ainsi que je suis resté dans l'armée.
Vous n'avez pas regretté l'enseignement ?
Pas à ce moment-là du tout. Non. Je pensais que c'était la voie à suivre, hein, qu'il fallait continuer. Le destin m'avait lancé là-dedans, il n'y avait pas de raison que je me dérobe. C'était la suite logique des choses. Nous n'avions pas achevé notre mission. La résistance avait pour but de chasser les Allemands de France et d'anéantir le nazisme. En 1944, il n'était pas anéanti le nazisme. Il fallait bien continuer jusqu'à la capitulation totale des forces allemandes. C'est à ce moment-là seulement que nous pourrions dire que nous étions victorieux. Et même après, lorsque le nazisme a été vaincu et que nous étions en occupation en Allemagne, le haut commandement nous a dit « Voilà, le nazisme est anéanti, c'est un fait, mais le Japon ne l'est pas. Il faut absolument continuer la lutte contre le Japon. Êtes-vous volontaire pour y aller ?» Tous ceux de la première armée à laquelle j'appartenais, qui étaient en occupation en Allemagne, nous avons tous signé un acte de volontariat pour poursuivre la lutte en Extrême-Orient contre le Japon. Et ce n'est qu'en arrivant en Indochine qu'on s'est aperçu qu'on avait fait fausse route, certains, ceux qui avaient conservé l'esprit de la résistance, ont dit, mais alors, on est vraiment là, d'anciens résistants luttant contre les résistants de ces pays-là, alors que nous étions occupés par les Allemands, et maintenant c'est nous qui sommes les occupants. Bon, voilà l'état d'esprit dans lequel ceux qui avaient gardé l'esprit de la résistance se sont trouvés, pas les autres. Hein. Il y en avait une grande partie qui, là-bas, allait simplement la fleur au fusil, puis on va tuer du bougnoule. Hein.
Now that we have won the fight, all together we will write the last page of Mein Kampf. We will write it, yes indeed, so the wide world can read the last page of Mein Kampf. The book is full of poetry, the way it's written now. The plans of Schicklgruber, we change them all and how. Now that we have won the fight, all together we will write the last page of Mein Kampf.
En 1944, la guerre n'est pas finie. L'Allemagne nazie ne capitulera que le 8 mai 1945. En ce mois de décembre 1944, Goebbels invective encore les Allemands à la radio. Pat part pour la campagne d'Allemagne.
Il y a une page que je trouve très émouvante dans votre bouquin. Ce sont ces femmes allemandes qui vous accueillent avec des fleurs. Vous êtes des libérateurs.
Ça se passait dans un petit village dont j'ai hélas égaré le nom, ne l'ayant pas noté au jour le jour sur mon journal de route. Je l'avais laissé tomber d'ailleurs pendant toute la campagne d'Allemagne. C'est un de mes grands regrets parce que j'aurais ça aujourd'hui avec des précisions, ce serait extraordinaire. Bon, tant pis, c'est fait, c'est fait. Mais dans un petit village, nous étions, ma section avancée en tête du bataillon, sur une petite route départementale qui longeait la route nationale de Bâle au lac de Constance. Et sur cette petite route, nous avons aperçu devant nous, à peut-être 300 mètres devant nous, un groupe de personnes au milieu de la route. Alors, regardant avec des jumelles, on s'est aperçu que c'était uniquement des femmes et il y en avait qui avaient des fleurs avec elles. Oh, alors on s'est avancé et puis il y en avait deux ou trois qui parlaient un peu le français, qui nous ont dit « Vous êtes nos libérateurs, ne croyez pas que nous sommes de mauvaises Allemandes, au contraire, nous avons l'impression d'être de bien meilleures Allemandes que les nazis, mais nous avons souffert du nazisme, certains des nôtres ont été en déportation, certains sont morts par la faute des nazis, soit en déportation, soit fusillés, vous venez nous libérer du nazisme et on espère reconstruire une Allemagne qui soit fidèle à la culture allemande de Goethe, de Beethoven, de Schiller, etc. Et voilà ce que nous espérons. Et voilà ces fleurs en marque de reconnaissance à votre égard. Alors évidemment, on s'est tombé dans les bras, on avait 23 ans, elle avait à peu près autant. Voilà. Malheureusement, on n'a pas pu rester longtemps avec elle parce qu'on était obligé de poursuivre notre route. Dommage.
Il n'y a pas beaucoup de notes sur la campagne d'Allemagne.
Il y a eu des coups durs, hein, il y en a eu quelques-uns. Hein. Quand on a pris Cupenham, par exemple, il y avait en face une résistance solide. Hein. Quand on a pris Oberkirch, encore davantage. Alors là, ça a été dur, parce que la compagnie à laquelle j'appartenais, qui était la deuxième compagnie du 1er bataillon du 23e RIC, avait été envoyé avec un escadron de chars et nous étions grimpés sur les chars. C'était un coup de bluff qu'a voulu faire notre chef de bataillon, foncer dans le milieu des lignes allemandes et les désorganiser. Les Allemands, pas si bêtes, se sont mis sur le côté, nous ont laissé pénétrer. Quand on a été bien au contact des premières lignes allemandes, sur les côtés, ils nous ont mitraillés de partout. Alors là, je vous assure qu'on n'était pas fiers. Hein. On a eu plusieurs de nos chars sur l'escadron. Il y a la valeur d'un peloton qui a brûlé complètement. Je vois encore à un moment donné des hommes essayer de sortir de leur char, retombant dedans parce qu'ils étaient brûlés à l'excès et brûlant avec leur char. C'était dur. On a perdu une vingtaine d'hommes, hein, nous, dans notre compagnie, dans cette bagarre-là, hein, et on est obligé de se replier. Et quand on s'est replié le lendemain matin, mon commandant de compagnie m'avait envoyé avec un groupe de combat, une dizaine d'hommes, donc, pour aller vérifier la position des Allemands, de façon à pouvoir décrocher le lendemain matin plus facilement. Je suis parti, mais il faisait une nuit noire, noire, noire. On ne voyait pas, on était obligé de se tenir les uns les autres pour ne pas se perdre au cours de la patrouille de reconnaissance. Moi, j'étais bien obligé de marcher en avant puisque j'étais le seul à savoir où on allait. On n'était pas le plus fier parce que souvent, je me suis passé des éclaireurs devant moi, hein, je ne vous le cache pas. Mais là, j'étais obligé d'être en tête, hein, parce que il fallait qu'on trouve notre chemin. On était dans cette nuit noire, on avançait, et puis à un moment donné, on s'est trouvé sur un petit pont, une masse qui s'est dressée devant moi. J'ai tiré le premier. Est-ce que c'était un soldat allemand? Vraisemblablement, hein, je ne vois pas ce que ça pouvait être d'autre. J'ai tiré le premier, la masse s'est abattue par terre, puis on a continué notre chemin. Mais j'ai certainement tué un Allemand ce jour-là. Hein. Et puis un peu plus loin, je me suis retourné, le reste de mon groupe n'était plus là. Et j'étais tout seul. Où ils étaient? Est-ce qu'ils étaient à mes côtés? Est-ce qu'ils étaient derrière? Alors j'ai continué, et j'ai entendu parler allemand tout autour de moi. Et j'étais tout seul. Alors j'ai rebroussé chemin, puisque je ne voyais rien. C'était le noir le plus absolu. Alors j'ai essayé de retrouver mon chemin tant bien que mal, puis je suis rentré à la compagnie. Et j'ai dit, je ne sais pas où j'étais, hein. Je ne peux pas vous renseigner, vous m'avez envoyé remplir une mission, mais j'en sais pas plus que vous. Sinon qu'il y avait des Allemands à cet endroit-là, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, alors, fort de ça, le lendemain matin, dès le lever du jour, on a pris le chemin du retour, on a battu en retraite, on est reparti. Mais on a quand même laissé des plumes, là. Voilà un exemple que je peux vous donner. Une autre fois, on était une attaque d'un groupe de Volkssturms. Les Volkssturms, c'était des soldats allemands de deuxième catégorie, constitués par des réservistes, hein, mais enfin qui étaient quand même des combattants. Hein. Et la section qui était en tête, c'était une section qui était commandée par un sous-lieutenant Gagarine, prince Gagarine. Hein. Il était d'un courage, bien plus courageux que moi, hein. Ça je ne m'en cache pas. Il marchait à la tête de sa section, toujours lui. Hein. Et il s'est fait tuer. Hein. Moi j'étais avec les éclaireurs de tête, mais un peu en retrait, hein, comme normalement on nous a appris à l'école qu'il fallait être. Mais lui, il était tellement courageux qu'il marchait toujours à la tête de ses gars. Hein. Bon, ben voilà un exemple parmi d'autres, mais je pourrais en raconter d'autres.
Hein. Il se passe une certaine histoire quand même avec un tank Sherman. Je vous avoue que j'ai pas cru ce que j'ai lu quand je vous ai lu. Est-ce que vous pourriez nous le raconter ?
Je n'ai pas l'habitude de mentir. Si c'était faux, je ne le dirais pas. Mais c'est incroyable, mais c'est pourtant quelque chose d'exact. Je vais d'abord vous raconter l'histoire. On était aux environs de Rastatt, il me semble. Mais ça, il faudrait le retrouver dans mon livre, parce que de mémoire, maintenant, j'ai des confusions. Enfin, voilà. Et j'étais avec ma section, à l'orée du village, avec deux Sherman, des chars américains. De l'armée française, hein. 5e division blindée, si mes souvenirs sont exacts, hein, parce qu'il y avait eu la 2e DB, mais il y avait eu la 5e aussi. Nous étions à l'orée du village et certains de mes gars signalent un canon anti-char allemand à peut-être 400 ou 500 mètres de là. Alors aussitôt, je vais prévenir les chefs de char en disant « Attention, vous avez un canon anti-char à tel endroit. » Alors aussitôt, les deux chars orientent leur canon dans cette direction et ils disent on va le repérer. Et on entend une déflagration, un coup de canon. Le canon anti-char allemand avait tiré et l'obus est venu se loger dans la gueule du canon de l'un des deux chars. C'est une chose incroyable. Je crois que c'est deux jours après, le général Delattre est venu nous voir et on a défilé devant lui. Et le char, avec son canon éclaté, faisait partie du lot. Alors, s'il y a des archives, il y en a certainement qui ont été prises à ce moment-là, on peut voir le char avec le canon éclaté qui défile devant le général Delattre. Vraiment, c'est incroyable, mais enfin, ça s'est produit.
Et voilà les amis, c'est dans l'ombre de deux guerres coloniales à venir que se termine cette deuxième rencontre avec Pat. On reparlera Indochine et Algérie au cours de cette série, mais avant cela, nous reviendrons au prochain épisode sur la résistance et sur certains aspects pratiques de la vie de guérillero. Vous pouvez en attendant réécouter cette émission sur le www.polemix et la voix off.com. Salut.